Bonjour Fabien Robert.
Bonjour.
Alors vous présentez aux Bordelaises et Bordelais se réfère injure à votre déjà très dense curriculum vitae politique locale, mais il se trouve que les présentations d'auteurs dans cette belle salle de la station Ozone de la librairie Mola touchent un public via ce qu'on appelle les réseaux sociaux et la chaîne YouTube qui va bien de là, bien au-delà de vos électeurs ou non-électeurs bordelais. Et donc je vais donc rappeler quand même pour ces non-bordelais, à très grands traits, votre cursus honorum politique, pour reprendre une expression consacrée. Alors vous êtes engagé en politique très jeune, hein, les historiens discutent, c'était 15 ans et demi ou 16 ans, hein, à l'UDF d'abord, puis au Modem, aux côtés de Jean Dionis du Séjour, qui est actuel maire d'Agen, et puis de François Bayrou, qui est aujourd'hui maire de Pau, évidemment qu'on ne présente pas. Vous êtes élu de la ville de Bordeaux en 2008, vous aviez alors 23 ans, en qualité de conseiller municipal, mais sur ce premier mandat, vous êtes très vite aussi maire de quartier, hein, maire adjoint de quartier, d'un quartier de Bordeaux. Puis, en 2014, toujours avec Alain Juppé, maire adjoint en charge de la culture, et puis même premier adjoint au maire ou premier maire adjoint lorsque Alain Juppé quitte Bordeaux le 1er avril 2019 et que vous êtes aux côtés de Nicolas Florian, son successeur. Depuis la victoire de Pierre Urmic en juin 2020, vous siégez sur les bancs de l'opposition municipale et depuis mars 2021, vous êtes aussi conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, élu sur la liste que conduisait la Landaise et ministre Geneviève Darrieussecq, là encore sur les bancs de l'opposition. À la ville, comme on dit, vous dirigez un parcours de master en communication publique et politique dans une des plus anciennes écoles françaises de communication et de relations publiques et de presse. Et j'en aurais terminé quand je vais préciser que vous êtes secrétaire général adjoint du Modem, je pense que c'est le bon titre, national, donc président départemental du Modem en Gironde et membre du bureau exécutif national du Mouvement démocrate. Vous appartenez à ce qu'on peut appeler le premier cercle de François Bayrou, en tous les cas dans le livre que nous allons présenter, ça se mesure au fil des pages. Et ça nous amène à évoquer ce livre que je montre à la caméra, comme on dit, qui est intitulé donc « Trois mois dans la campagne d'Emmanuel Macron, journal d'une campagne fantôme alarmatant ». Alors, c'est une chronique quotidienne, un journal de bord, hein, d'une expérience plutôt unique. Et puis je précise aussi, parce que c'est un ami par ailleurs, et je sais que vous y tenez, d'ailleurs son nom figure sur la première page, c'est un livre que vous avez écrit, évidemment, à titre tout à fait personnel, mais aidé par un journaliste, un ancien journaliste, aujourd'hui retraité du service actif, qui a fait pratiquement toute sa carrière à Sud-Ouest, Hervé Mathurin, et le journal Sud-Ouest étant bien sûr le grand quotidien régional que l'on connaît. Ma première question, elle va manquer totalement d'originalité, donc pardonnez-moi Fabien, pourquoi avoir qualifié cette campagne de fantôme ?
Bien, bonjour Jean, bonjour à toutes et tous, merci d'abord de ces propos, je suis très heureux qu'on puisse échanger ensemble Jean sur ce livre. Pourquoi une campagne fantôme ? Je crois que on peut s'interroger sur l'objectif d'une campagne, si l'objectif c'est d'exprimer de manière pacifique des points de vue différents, de les confronter, parfois vivement, mais avec respect, d'aller au vote, de considérer qu'un gagnant est légitime et qu'il puisse travailler et agir. Si c'est ça la définition d'une campagne en démocratie, on peut considérer que cette campagne présidentielle ne l'a pas été tout à fait, puisque en réalité, ce débat public, quasi comparable d'ailleurs au débat dans la tragédie grecque, on met en scène des désaccords pour les régler démocratiquement plutôt que les régler par le conflit dans la société. Eh bien, je trouve que de ce point de vue-là, l'élection n'a pas permis cette transformation pacifique et la victoire d'un camp, d'une équipe, de manière assez démocratique. Et puis, alors ceci est le fait d'éléments exogènes, on va parler. Ceci est le fait aussi de stratégies de contournement, d'évitement. Et donc, je pense un petit peu comme vous savez, un fantôme, je dis souvent, c'est sans couleur et translucide. Ben, je trouve qu'on a fait un peu une campagne, malgré l'énorme travail que ça représente. Je peux vous dire que pendant trois mois, les nuits étaient courtes et l'engagement était exceptionnel. Et malgré le fait que je sois convaincu d'avoir mené le bon combat, voilà, je ne me départis pas d'un sens critique qui fait que je trouve que cette campagne a été, hélas, trop peu effective du point de vue de l'acceptation que cela donne aux candidats gagnants.
Alors, vous parlez d'un énorme travail. On voit bien que en vous disant que c'est un travail collectif. Et page 9, vous vous présentez comme un rouage éphémère de la machine Macron, sont vos termes. Alors, qu'est-ce que ça recouvre concrètement? On ne va pas rentrer dans les détails de la machine Macron, du moins ce que vous avez pu en voir. Et le rouage que vous avez été, il se situait où exactement dans cette machine?
Alors, ça, c'est très important parce que je ne revendique pas une proximité avec Emmanuel Macron. J'étais chef adjoint du pôle des élus. Il y avait sept pôles dans l'organisation de campagne. Chef adjoint du pôle des élus, le chef...
Vous étiez installé, Fabien, on s'appelle au Rocher, c'est-à-dire en fait rue du Rocher, dans un des deux corps de bâtiments du siège de La République En Marche.
Exactement, il y avait deux bâtiments qui venaient d'être acquis par La République En Marche, le premier pour le siège de son mouvement et le deuxième qui communiquait pour l'équipe de campagne qui représente quand même une petite centaine de personnes, oui. ce qui peut paraître beaucoup pour les gens qui nous écoutent, mais il faut imaginer la densité que représente une campagne auprès de dizaines de millions d'électeurs. Donc c'est forcément une grande équipe. Et elle était organisée en pôle avec une coordination, un pôle communication, un pôle événementiel et le pôle élu qui était lui chargé d'abord des parrainages. Premier gros chantier.
On va y venir sur les parrainages parce que ça occupe un peu les premières pages de votre livre.
On va dire qu'on démarre plutôt par un gros chantier. Ouais, ouais. Contrairement aux autres pôles, nous on démarre par le très gros chantier. Mais c'est aussi un pôle de relations publiques auprès des élus locaux, cible importante pour le camp présidentiel. Il était dirigé par Jérôme Perra, également néo-aquitain, avec qui je me suis très bien entendu. Donc
Périgourdin est maire de La Roque-Gageac.
Exactement. Et donc je trouve que ce rôle qui n'était ni trop haut ni trop bas dans la hiérarchie est intéressant pour observer. Parce que souvent, quand on est très haut dans la hiérarchie, on sait tout, mais on peut rien dire. Et quand on est très bas, on ne sait pas et on parle beaucoup. Moi, j'étais à un poste où on voyait beaucoup de choses. J'ai rien dit pendant la campagne. J'ai pris des notes tous les soirs ou deux fois, trois fois par semaine. J'écrivais avec mon complice Hervé Mathurin, si bien qu'à la fin de la campagne, le journal était écrit et qu'on a retouché quasiment aucune ligne. Donc ça restitue vraiment l'atmosphère que j'ai vécue.
Oui, parce que faut bien préciser ça, parce que à plusieurs reprises, quand on lit votre texte, il y a des éléments qui sont assez prémonitoires et il faut dire, parce que c'est toute l'honnêteté de l'auteur, vous n'avez pas retouché,
non,
ex post le tableau en fonction des épisodes.
Il y a des choses fausses aussi qui vont s'avérer fausses.
Oui, non, mais
il y a les deux.
Oui. Alors, dès les premières pages de votre journal, j'appelle ça votre journal parce que c'est
journal.
Ça, on mesure que votre mentor politique, François Bayrou, a un caractère bien trempé. Bon, ça, c'est pas vraiment une découverte. Et pour dire les choses simplement en employant un langage de jeune que vous êtes, il peut être vachement cash, quoi. Hein,
oui.
Il vous raconte qu'il est convié à l'Élysée quand vous commencez à discuter avec lui de votre engagement dans le dispositif de campagne pour une réunion stratégique.
C'est Jérôme Perra qui raconte l'anecdote.
C'est lui qui l'a raconté.
Il l'a raconté en disant.
Alors je vous laisse raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait Bayrou là?
En fait, une des premières réunions avec mes collègues où Jérôme Perra me présente comme chef adjoint, il lit ça, François Bayrou, pour qui il a beaucoup d'estime.
Alors qu'ils ne sont pas de la même origine politique, si je puis dire, parce que Perra était UMP et LR.
Oui, tout à fait, oui. Enfin, en tout cas, RPR, UMP, gaulliste, mais ils ne sont pas de la même obédience. Néanmoins, François Bayrou était convié pour une réunion sans le président de la République.
Présenté comme réunion stratégique.
Réunion stratégique à l'Élysée. Sans doute que pour une raison valable, il n'y venait pas de bonne grâce. Et quand là, il ouvre la porte de la réunion, il regarde tout le monde et il dit « Je pensais que c'était une réunion stratégique, or je ne vois aucun stratège pour discuter, donc je m'en vais. »
Voilà.
Et je trouve que, vrai ou pas vrai, d'ailleurs je dois vous dire que je ne l'ai pas vérifié l'anecdote, mais je pense que ça forge une réputation qui est celle de quelqu'un de solide et qui a une expérience. Et d'ailleurs, un petit peu plus loin, l'une des premières réunions aussi sur l'organisation de la campagne, quand vous êtes face à quelqu'un qui a fait trois élections présidentielles sur son nom... Il vaut mieux tenir compte de ses conseils d'organisation.
Ah, je continue sur lui, c'est bien plus loin, c'est page 92, mais je veux qu'on parle d'abord un peu de Bayrou, parce qu'on va le voir apparaître à plusieurs reprises. On devine un peu l'importance qu'il a pu avoir, pour le coup, stratégique. C'est une anecdote qui décrit bien à la fois le caractère de Bayrou et sa culture très classique d'agrégé de lettres. Je sais qu'il lui arrivait d'échanger par SMS des formules latines avec Alain Juppé. C'est un échange avec Stanislas Guérini, numéro 1 de La République En Marche, Et Guérini le remercie pour la bienveillance des démocrates chrétiens. Donc, c'est une histoire en fait de chrétiens jetés au lion sous Néron. Mais là aussi, je vous la laisse te raconter parce que ça se passe pas exactement comme prévu. L'histoire,
non, je l'ai chrétien. Je l'ai entendu plein de fois par François. Elle nous fait toujours beaucoup rire. En réalité, on venait de conclure un accord de financement puisque le mouvement démocrate a très normalement et légalement financé la campagne d'Emmanuel Macron. Le remerciant de cette bienveillance, il évoque la bienveillance des donc démocrates chrétiens. François Bayrou dit : « Je vais te raconter une histoire. » Et donc, à l'époque de Néron, son organisateur des Jeux lui propose un spectacle. Et Néron lui dit : « Très bien, et vous mettrez des chrétiens qui se feront dévorer, comme c'était le cas dans une phase de l'histoire, des chrétiens dévorés par les lions. » L'organisateur des Jeux s'exécute. Pendant les Jeux, Néron tourne la tête et tout d'un coup, il entend tout le public s'émouvoir. Donc il regarde dans l'arène et il s'aperçoit que ce sont les chrétiens qui dévorent les lions. Et il se tourne vers son organisateur des Jeux et il lui dit : « Je t'avais dit des chrétiens, pas des démocrates chrétiens. » Tout le monde sourit. Tout le monde rit, mais je pense que le message est passé à la fin de la réunion.
Oui, parce que on va dire que c'est pas forcément l'image qui est traditionnellement dans les représentations, les démocrates chrétiens, effectivement.
Gentil.
Plutôt, tu tends l'autre joue si on t'a tapé sur la première.
Exactement. Hein, voilà. C'est pas la culture que nous avons.
Le Béarnais n'est pas vraiment comme ça.
Non, et puis le Béarnais qui a conquis de haute lutte, et c'est aussi le sens pour moi de ce journal, conquis de haute lutte, une liberté d'esprit, une liberté critique. On a traversé 10 années de désert avant aujourd'hui d'être au milieu de 10 années de gouvernement de la France. On sait ce que ça veut dire de payer l'indépendance, la liberté. On y est très attaché. Et c'est pour ça aussi que, en écrivant ce journal, je me suis longtemps demandé est-ce que ce sera publié, parce que la politique de l'intérieur, c'est quand même toujours compliqué. Et il y a une phrase de Montaigne que je cite pas dans ce livre, mais que j'aime beaucoup. Il dit : « Quand ma volonté me donne à un parti, ce n'est pas d'une si violente obligation que mon entendement s'en infecte. » Je trouve que ça dit bien aussi ce que nous sommes au mouvement démocrate, c'est-à-dire un partenaire loyal mais capable de liberté d'esprit.
Alors, je rebondis sur le mot loyauté parce que on passe un peu en revue quelques personnalités. Pour ne pas employer le terme grande figure, à un moment vous comparez la loyauté de Riester avec celle d'Édouard Philippe. À plusieurs reprises, il y a des petits coups de griffe à l'égard d'Édouard Philippe, et vous dites la loyauté d'Édouard Philippe n'est sans doute pas taillée dans le même bois que celle de Riester.
Faut se remettre dans son contexte. Hein. Vous savez que la fusion qui avait été imaginée au départ entre Agir et Horizon ne s'est pas faite, puisque Agir a rejoint in fine Renaissance. Hein. Et donc, Franck Riester a effectivement, de ce point de vue-là, préféré rentrer totalement dans l'écurie présidentielle. C'est une forme de loyauté. Là où Édouard Philippe décide de créer sa propre famille politique. Et à l'époque où nous sommes, dans une organisation présidentielle, où il y a des représentants de toutes les familles politiques dans l'organisation de cette campagne, nous sommes tous partenaires, mais en même temps, nous devons pouvoir compter sur la fidélité et la loyauté de tout le monde. Quand il va y avoir un mois après une élection législative, où on n'est pas encore d'accord sur qui va être candidat. Donc ça met tout ça dans un contexte d'obligation de loyauté, tout en étant tout en ayant un regard assez glacial sur les enjeux de personnes et comment ensuite sa propre famille politique sera respectée. Donc ces questions-là, elles ont été très fortes. Et pendant les parrainages, notamment, il y avait la course à qui on verra son parrainage le premier, ce qui m'avait semblé un peu ridicule.
Avant de rentrer sur le parrainage, j'ai une dernière question un peu générale. Et ça, on revient à Jérôme Peyra. Donc vous l'aimez bien, d'ailleurs, vous siégez ensemble sur les bancs de l'opposition au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et il dit lors d'une réunion, c'est page 16, nous sommes dans l'attente d'une seule direction de campagne, on est un peu au début, qui sera exercée par une seule personne dont tout le monde connaît le nom, et vous dites nous n'en saurons pas plus. Alors maintenant que c'est passé, je me suis dit qu'est-ce qu'elle voulait dire Peyra, hein, comme tout le monde. Alors est-ce que c'était tout simplement Macron qui était à la fois le candidat et le directeur unique de sa campagne, de sa propre campagne, ou est-ce que c'est, alors là il faut aller jusqu'à la page 189 pour voir apparaître le nom, Alexis Kohler, dont vous dites justement à la fin de votre livre, est-ce que c'était pas lui l'instigateur de l'étrange non-campagne? Alors, c'est qui, à votre avis, celui dont tout le monde connaît le nom, dit Perrin?
Oui, c'est un peu ça. En tout cas, il n'y aura pas plus de noms donnés par Jérôme Perrin que cela. Moi, la conviction profonde que j'ai, c'est que Emmanuel Macron a été le candidat et le directeur de sa campagne. Mmh. Ce qui ne me choque pas et ce qui n'est pas condamnable. Puisque nous avions en revanche un coordinateur, ce n'est pas la même chose, de campagne, Grégoire Poton, à qui je rends aussi
que vous
hommage,
à plusieurs reprises. Oui.
Ce fut un garçon, et c'est un garçon extrêmement honnête, sincère.
Alors il a repris du service, parce que si je me souviens bien, en 2017, il était déjà un peu dans la chaudière. Hein,
Oui, exactement. Oui. Et il est aujourd'hui conseiller auprès du président de la République. C'est quelqu'un qui a permis à cette équipe de campagne plurielle de fonctionner, mais je pense que le président de la République a été lui-même extrêmement engagé dans la stratégie et sans doute jusqu'à la direction de cette campagne, puisqu'en tout cas il n'y avait pas de directeur de campagne en titre, ça je puis l'affirmer. Mais c'est pas une critique, c'est un constat. Le chemin démocratique qu'a pris le président de la République pour être réélu est explicable, démocratique, je le répète, et donc pour moi il n'est pas condamnable. Mais effectivement, c'était une organisation de campagne dans laquelle je dis à un moment donné que la stratégie était ailleurs, que nous étions exécutants, et tant mieux, parce qu'il fallait aussi tout de même faire beaucoup de choses, y compris accueillir des élus dans les meetings, qu'ils se sentent valorisés, et c'était notamment l'une des missions que nous avions. Donc c'est pas du tout dans mon livre péjoratif, mais c'est un constat. Le président a été le candidat et le directeur de campagne à la fois. C'est, je pense, aussi conforme à ce qu'il est, à son caractère. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement présent, y compris dans les décisions concrètes.
Alors, premier grand dossier donc, qui vous occupe, vous dites, parmi les pôles, on était le premier à être au feu, hein, c'est le fameux parrainage. Alors, on ne va pas rentrer dans la mécanique un petit peu compliquée, constitutionnelle, hein, de la répartition de ces 500 parrainages, parce qu'il faut que ça soit sur le territoire, avec un maximum par département, un certain nombre de départements. Bon, toujours est-il qu'il se refait un petit peu, il se rejoue la même pièce un peu à chaque présidentielle. Il y a des candidats qui ont du mal à avoir des parrainages. Voilà. Et au bout d'un moment, ça va faire apparaître une proposition de François Bayrou de créer une bourse au parrainage.
Banque des parrainages.
Oui. Banque des parrainages, pardon. Qui serait en quelque sorte un stock disponible pour celles et ceux qui auront des difficultés. Donc il y a même des contacts avec Philippe Poutou, avec...
Tous les candidats qui n'ont pas leur parrainage à cette époque-là se rapprochent de François Bayrou.
Le Pen, alors c'est assez discret.
Officiellement ou officieusement, mais oui, tout le monde essaie.
Jean Lassalle, maître Hélène Thuy pour le parti animaliste, etc. Bon. Alors,
Jean Lassalle, Hélène Thuy, je ne sais pas. Bon, enfin, il y en a eu beaucoup, la plupart.
C'est donc un travail important de compiler, en quelque sorte, ces soutiens potentiels. Mais ça vous amène aussi à une certaine réflexion. On le voit bien dans la lecture, ce que vous vous dites, mais est-ce qu'on n'est pas en train de générer quelque chose qui va nous être reproché? On pense à la fameuse, entre guillemets, jurisprudence du 21 avril 2002, hein, où Jean-Marie Le Pen, ayant des difficultés à trouver ses signatures, en reçoit... J'allais dire de manière discrète par le Parti socialiste et l'entourage de Jospin, se disant ça va, la candidature de Le Pen ne peut que gêner le président sortant Jacques Chirac. Résultat des courses, effet boomerang, c'est Jospin qui est éliminé au sort du premier tour et le qualifié, c'est Le Pen. C'est ça que vous avez en tête en vous disant il y a une prise de risque.
En tout cas, ce que vous dites sur Jean-Marie Le Pen me rappelle. Ces grands stratèges de LR qui expliquaient qu'il fallait aider Zemmour à avoir ses parrainages parce que ça permettait d'empêcher Marine Le Pen et d'aider Valérie Pécresse. Souvenez-vous, c'était le point de départ. Et puis quelques mois après, Zemmour était devenu évidemment un danger pour Valérie Pécresse. Donc ce que je crois, c'est que la question des parrainages était très différente cette fois-ci parce que le Conseil constitutionnel publiait deux fois par semaine, tel un compteur permanent, les signatures des uns et des autres, la quantité. Et résultat, deux fois par semaine, les médias, etc., tout le monde en parlait. Bref, on a transformé la collecte en course. Mmh. Et c'est plus tout à fait la même chose. Mmh. Or, dès le départ, nous savions que nous allions gagner la collecte, au sens où nous allions en avoir assez, mais nous n'allions pas gagner la course. pas possible. Oui. Donc la stratégie a été de dire on fait pas la course.
Mais parce que Emmanuel Macron a été le premier à dire j'en ai 500.
Oui, alors
c'est pas lui qui l'a dit, c'est le Conseil constitutionnel. Bon,
voilà, mais nous en avons eu suffisamment et suffisamment tôt, mais nous savions bien qu'au compteur, voilà. Sauf que donc il fallait d'abord ne pas faire la course. C'est la raison pour laquelle on a traité cette question avec beaucoup d'humilité, sans aller arracher des parrainages avec les dents entre guillemets comme on a pu le faire d'autres. Et dans cette phase-là, il y a vraiment eu un coup de génie, une idée de génie de François Bayrou, doublement de mon point de vue, d'abord au sens démocratique, parce que il n'était pas envisageable qu'un des candidats Le Pen, Zemmour, Mélenchon n'aient pas ses signatures. Or, remettons-nous dans le contexte de l'époque, il ne les avait pas. C'était difficile. D'ailleurs, Marine Le Pen passe la barre des 500 parrainages avec les signatures de la banque. On peut le vérifier puisqu'on a les noms. Le jour où elle passe la barre des 500, elle arrive à 504 de mémoire. Il y a déjà une quinzaine d'élus membres de la banque créée par François Bayrou qui signent pour elle. Alors, après, il y en a d'autres. Mais je pense qu'au-delà de ça, François Bayrou a contribué à libérer les élus locaux qui ne voulaient pas donner leur signature cette année en se disant, bon, signature n'est pas soutien. Et quand je dis que c'est un coup de génie, c'est que d'abord, démocratiquement et socialement, imaginez si un des candidats n'avait pas eu ses signatures, quand on voit aujourd'hui ce que provoque une réforme légalement adoptée. C'est-à-dire, on aurait eu sans doute une éruption et un sentiment d'injustice profond. Et ensuite, parce qu'évidemment, ça permet aussi au président de la République d'avoir des adversaires contre lesquels nous pensons qu'au deuxième tour, il va gagner. Et c'est de ce point de vue-là que je pense que François Bayrou a joué un rôle clé. Alors, ce n'était pas facile hein, tous les jours, quand vous êtes à la fois dans l'équipe qui collecte les parrainages pour Emmanuel Macron et que le chef de votre famille politique dit « Hop, 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 gardons les parrainages pour une banque, on verra à qui on les donne. » Pour faire un peu le grand écart, quoi. Ça a été un moment un peu de tension. Certains marcheurs ont compris que cette banque était stratégique pour l'élection, peut-être pas pour nous, mais pour l'élection. D'autres n'ont pas bien compris pourquoi on allait aider des adversaires.
Bon, et j'allais dire le premier marcheur, hein, ou le premier d'entre eux, le président sortant, candidat à sa propre succession, il s'en est expliqué avec François Bayrou, à votre avis, hein ?
Ça, je ne le sais pas, je ne dis pas ce que je sais pas, mais ce que je crois, c'est que François Bayrou ne prend pas une telle initiative sans en être lui-même convaincu et sans que le président soit convaincu. C'est le sentiment que j'ai, en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait souhaité gagner sans eux. Il a souhaité gagner contre eux. À l'époque, on ne savait pas qui allait être au deuxième tour. Contre Marine Le Pen, mais certainement pas sans elle. Parce que là, je le répète, je pense qu'on aurait eu dans
le ticket aurait été très élevé politiquement parlant.
Ah, je pense très honnêtement. Enfin, quand on voit, je le répète, ce qu'une réforme provoque aujourd'hui, l'absence de candidats aurait provoqué sans doute l'un des sentiments les plus dangereux en politique, c'est-à-dire l'indignation.
Alors, on voit bien en vous lisant que cette élection présidentielle a quand même pris aujourd'hui une dimension très très particulière, hein, à la fois dans les imaginaires politiques des acteurs, mais également dans le grand public. Et puis aussi, c'est pas rien de, comme on dit, de désigner au suffrage universel la fameuse clé de voûte des institutions. En page 34, vous dites « Les Français ne votent pas, c'est à propos de Valérie Pécresse et de sa campagne, les Français ne votent pas pour élire Monsieur Parfait ou Madame Parfaite, pour ne citer que les plus récents, ni Jacques Chirac, c'est vous qui écrivez toujours, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ont des profils de premier de la classe. En revanche, leur personnalité et dans une moindre mesure leur programme est entré en résonance avec les attentes intimes de la nation. » Alors, c'est pas pour essayer de trouver un paradoxe là où il n'y en a pas forcément, mais est-ce qu'on peut pas dire, est-ce qu'il est erroné de dire que finalement Emmanuel Macron est un peu le contre-modèle de ses trois prédécesseurs, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un CV tout à fait remarquable, hein, compte tenu de son parcours. Il réalise, on ne le sait qu'à la fin, mais il réalise quand même. Une première, c'est une réélection hors cohabitation. Et puis, j'allais dire, un contre-modèle aussi, à plusieurs titres, si je fais référence à l'actualité, donc c'est forcément après votre ouvrage, quand vous parlez de la résonance intime avec la résonance avec les attentes intimes de la nation. On a l'impression que la résonance, là, elle prend plutôt des bruits de casserole. Pardon, c'est facile, mais est-ce que Macron n'est pas un président à part entière, mais un peu entièrement à part aussi.
Écoutez, je ne sais pas, l'histoire le dira, mais ce que je crois, c'est que cette entrée en résonance avec ce que le pays profond pense et ressent, c'est très contextuel. Et effectivement, un an après, on peut considérer que les choses ont évolué, et peut-être que dans un an encore elles auront évolué. Donc il faut être très très humble par rapport à ça. Mais ce dont je suis sûr, c'est que les arguments qui conduisaient certains à penser la victoire certaine du côté de Valérie Pécresse n'étaient pas les bons. Et les arguments beaucoup évoqués à l'époque, c'était la qualité son intelligence, ses qualités personnelles, etc. Et je crois que c'est pas uniquement cela qui compte dans une élection présidentielle. Je suis assez indulgent, enfin à la fois dur et indulgent, parce que je pense qu'on a fait faire à Valérie Pécresse la campagne qui n'était pas la sienne. Le grand meeting qu'elle a manifestement raté est l'illustration de cela. Je pense qu'un autre meeting, une autre manière de faire campagne, parce qu'elle a des qualités humaines sans doute qui sont intéressantes, lui aurait permis peut-être de faire un autre score. Mais en même temps, il y a eu vraiment une erreur stratégique. Je pense qu'il faut à un moment donné connecter la personnalité, les qualités d'une personne avec ce que le pays profond ressent. Et ça, d'abord, ça n'est pas totalement du simple fait des candidats. Il y a aussi un contexte. On y reviendra sans doute, mais le contexte de cette élection présidentielle avec la guerre en Ukraine, qui n'est le fait d'aucun des candidats, forcément, va avoir un impact plutôt positif sur le président sortant. Bien sûr. Pas tant d'ailleurs dans les sondages, parce que vous avez vu, on va prendre dans les sondages ce qu'on va exactement reperdre quasiment sur la guerre en Ukraine.
Un petit peu moins.
À peine moins. Moi, je me rappelle, quand on prend ces points-là, je dis à l'époque, vous savez, je dis au comité directeur de campagne, vous savez, moi, je suis très prudent, ce qu'on prend sur une situation extérieure, on peut le reprendre. Mais ça a servi. Ça a révélé les qualités aussi que les Français apprécient dans l'épreuve, je crois, de solidité d'un président de la République et néanmoins président de l'Europe à l'époque. Donc je pense vraiment que ça n'est pas le CV qui fait l'élection présidentielle. Voilà. Je crois qu'Emmanuel Macron, quel que soit son CV, a été réélu sur un autre ressort. C'était un peu ce que je voulais dire à ce moment-là quand j'entendais les défenseurs de Valérie Pécresse. Moi, je me rappelle quand quand elle a gagné la primaire. Il y a eu un vent, y compris dans mes proches, de sympathie. Il y a même eu un sondage. Souvenez-vous qu'il avait donné gagnante au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Pour finir à moins de 5, c'est inédit quasiment dans les élections présidentielles.
Le sondage, il avait été fait en dehors de la candidature de Zemmour.
C'était un deuxième tour. C'était si elle était devant.
Oui, c'est ça. Mais je veux dire, elle était devant.
Elle était devant Zemmour.
Devant Zemmour.
À l'époque, elle était très haut dans les sondages. C'était Elabe qui avait fait ce sondage.
En vous lisant page 56, on comprend que la politique, c'est ça peut être une science, mais c'est pas forcément, quand on la pratique, une science exacte. À la date du 21 février, dans votre journal, vous écrivez François Bayrou n'est pas un homme politique qui croit ce qu'il voit ou ce qu'il entend, il croit ce qu'il sent. Je continue, c'est vous qui continuez, c'est un intuitif, comme un sixième sens, dit-on de lui. En tout cas, le voir opérer est pour moi très formateur. Alors, on se dit qu'en politique, c'est vrai que l'intuition est souvent d'avoir un coup d'avance. Hein, et on sait que, par exemple, François Bayrou a toujours été assez admiratif de François Mitterrand, hein, et pas simplement pour l'identité du prénom, mais je sais que Bayrou a souvent regardé faire Mitterrand. Mais est-ce qu'en politique, on risque pas, même si on est intuitif, de confondre vitesse et précipitation?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a ceux qui ont une capacité olfactive très développée en politique et ceux qui ne l'ont pas. Moi, j'ai vu ça de manière très prégnante dans cette campagne. Être un organisateur, être quelqu'un qui fait preuve de pédagogie, ce sont des qualités intéressantes. Mais je crois que la plus grande des qualités en politique, c'est de sentir la météo et, dans une autre mesure, de sentir l'âme. Voilà. Je crois que François Bayrou a ce talent de détecter un petit peu comment les choses doivent se passer. Et il est très capable de sentir, non pas ce qu'on lui dit ou ce qu'il voit, mais vraiment ce qu'il sent. Il croit vraiment ça, c'est assez prégnant. Je m'en étais pas vraiment rendu compte avant. Je vois que dans sa manière d'être, dans sa manière de fonctionner, ce qui compte d'abord, c'est ce qu'il sent. Et au fond, c'est assez logique, parce que quand vous devez présider à l'organisation et à la vie de milliers ou millions de Français, c'est pas simplement la littérature et les mathématiques qui organisent les choses. C'est forcément un petit peu comment vous sentez la population. Bien avant les Gilets jaunes, nous savions dans notre famille autour de lui qu'il y allait avoir forcément des difficultés qui allaient être crescendo, et on le reconnaît aussi ce talent sur d'autres sujets comme la dette, par exemple, du pays. Donc on sait que c'est quelqu'un qui a cette capacité à sentir le pays profond, le pays réel. Encore, on le voit bien en ce moment sur la question de la réforme des retraites. nous défendions le référendum, parce que nous pensions que même adopter une réforme, si elle n'était pas assortie d'un assentiment populaire très fort, risquait de nous amener dans ce contexte-là.
En dépit du fait qu'on sait bien, en particulier, par exemple, depuis le référendum sur le traité constitutionnel européen, le projet de traité constitutionnel européen de 2005, on sait bien que le référendum, c'est souvent une réponse à celui qui a posé la question, plutôt qu'à la question directement.
Je crois, mais je pense aussi que précisément, il n'existe qu'une seule réponse, malgré tout, dans ces situations-là, c'est de consulter le peuple. Mais pour revenir à ce qu'on disait sur Bayrou et sur le journal, ce journal, pour moi, un journal, d'abord, c'est personnel, forcément, donc j'y parle de choses que je connais, c'est partiel, et c'est partial aussi. Donc nécessairement, j'évoque, avec parfois même de l'esprit critique, mais j'évoque d'abord les miens. Et je crois qu'il est, effectivement, de ceux qui, aujourd'hui, ont cette capacité à la fois d'analyse, de prévision et de confiance aussi, parce que je crois que beaucoup de gens lui reconnaissent une vraie constance, une vraie stabilité, une vraie loyauté d'ailleurs également à l'égard d'Emmanuel Macron.
Vous établissez une comparaison entre la campagne d'Emmanuel Macron en 2022 et ce qui a pu se passer en 2017. Puisqu'en 2017, je rappelle qu'en février 2017, François Bayrou se rallie à Emmanuel Macron. Ça permet, c'est quasiment immédiat dans les sondages, de voir une augmentation de plus de 7%. Et ça, c'est pas ce qu'on appelle le flag effect, c'est pas l'effet drapeau.
Non.
Dont on parlera tout à l'heure à propos des contingences extérieures. C'est un ralliement politique et ça apporte finalement le score potentiel de François Bayrou à un niveau minimal. En 2022, le contexte est tout différent. Et vous dites, par rapport à la doctrine gaullienne de la première présidentielle de 65, vous dites, dans la République de Gaulle, l'élection présidentielle, là encore, je vous cite, c'est d'abord le choix d'une personnalité, pas d'une étiquette. Emmanuel Macron, vous posez la question, puisque vous parliez dans votre journal de choses très personnelles, vous interrogez, Emmanuel Macron a-t-il vraiment besoin d'aligner tous ces partis pour gagner? Alors je vous retourne la question, Fabien, parce que vous n'y répondez pas.
C'est en réalité, cette victoire, c'est d'abord la victoire d'Emmanuel Macron. Il y a des ralliés, il y a des soutiens, il y a une équipe de campagne. Je m'interroge même à la fin sur l'utilité d'une équipe, c'est paradoxal, oui, mais c'est le cas. D'abord la victoire d'Emmanuel Macron, qui, quand ça va bien, capitalise sur ce qui va bien, donc par exemple sa réélection. Quand ça va mal, malheureusement, il est aussi très directement réceptif des critiques. C'est un peu l'inconvénient de cette méthode-là. Mais en tout cas, cette victoire, on lui doit d'abord à lui. C'est pour ça que je m'interroge, parce que, vous l'avez dit, le mouvement démocrate est le premier partenaire d'Emmanuel Macron, un allié important, mais il y avait aussi toute une série de partenaires, de partis politiques, j'en citerai aucun pour pas être désagréable, et je vais pas leur dire qu'ils sont petits, parce que j'appartiens moi-même à un parti qui fut très petit, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais effectivement, ça n'est pas le sens de l'élection présidentielle, et c'est pour ça qu'à plusieurs raisons, plutôt que de servir Emmanuel Macron, il y avait des personnes qui étaient là pour se servir d'Emmanuel Macron, hein, avec les législatives derrière et tout ça.
Dire.
Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il n'avait pas besoin de toute cette ribambelle parfois de soutien avec les jeux de photos qu'on peut observer pour essayer d'eux, qui sont assez désagréables, mais c'est ainsi. Et je pense même qu'en réalité, avec ou sans cette équipe de campagne, le score aurait été peut-être assez proche, ce qui rend un peu plus humble.
Oui, c'est ce qui ressort à la fin de votre livre. C'est pas qu'on se dit alors tout ça pour ça, mais on a quand même un peu l'impression, parce que vous êtes vraiment très très honnête.
Pardon, j'ai avancé vite vers la fin.
Page 201, hein, je ne suis pas sûr que le score aurait été sensiblement différent sans l'équipe de campagne à laquelle j'appartiens.
Oui.
Bon,
mais il faut dire la vérité. Je pense que les gens ont besoin pour croire de nouveau en la politique qu'on leur dise les choses avec beaucoup de simplicité. L'organisation de cette campagne, surtout de cette campagne présidentielle, elle est centrée sur une personne, sur un programme bien sûr, mais sur une personne. Et en l'occurrence, le président de la République à capitaliser par lui-même et à mener cette campagne par lui-même. Alors évidemment, il faut une équipe. Hein. C'est un énorme travail d'organisation, de mécanique, très précise, hein, d'une certaine manière, qu'il faut organiser. Mais il ne faut pas faire croire qu'il y a une espèce de magie, qu'il y a quelque chose de mystique quasiment dans l'organisation politique qui fait que les plus manipulateurs gagnent. Non, c'est pas ça qui s'est passé pendant cette campagne. Je pense que c'est aussi une démarche de sincérité et quelque chose de très personnel qui s'est passé entre le peuple et Emmanuel Macron.
Comme on dit, faut pas que ça joue faux, quoi.
Non, il faut pas. Alors, il y a des tenants, au contraire, qui pensent qu'il faut conserver une forme, plutôt beaucoup de mystère, d'une certaine manière, dans la relation entre l'électeur et le politique. Alors, je suis pas en train de vous dire que être président, c'est être normal, comme l'a fait un autre président. Je crois pas du tout à ça. Mmh. Je pense qu'il faut néanmoins conserver une forme de sincérité, de vérité dans l'organisation politique. Et c'est pour ça que je cache rien dans ce livre, sans chercher la révélation.
Non seulement vous cachez rien, Fabien, mais il y a des moments où vous-même en voyez, ce qui, si je puis dire, un petit peu du bois. Quand on est dans un collectif comme ça, là vous étiez au pôle élu, donc vous voyez arriver telle ou telle personnalité, alors que normalement il doit y avoir un esprit d'équipe, et vous voyez bien qu'il y en a qui sont certes avec plutôt des stratégies individuelles. Alors il y en a un qui s'appelle Sébastien Lecornu. Vous écrivez, reste à savoir ce qu'il a derrière la tête en cas de réélection. Vous dites, il est très sympa, ça se passe bien. Voilà. Reste à savoir ce qu'il a derrière la tête en cas de réélection. Il est, je sais pas son titre exact, mais ministre délégué au département et d'outre-mer. Enfin, ouais, d'outre-mer. Hein. Quelque chose me dit que quand la musique s'arrêtera, il aura bien une chaise. Quitte à jouer un peu des coudes. Ouais.
C'est aussi être en toute transparence ce qui se passe en politique. Je suis pas certain
c'est
dans
c'est
le
ce
monde.
C'est ce qui s'est passé.
Bah, en tout cas, il est ministre de la Défense aujourd'hui.
Et vous avez vu qu'il fait en sorte de laisser au moins à croire qu'il pourrait être parmi les cadres d'un casting limité.
Moi, ce que je vois, c'est que pendant cette campagne où il a été à la tête du pôle, à partir d'un moment, d'abord, il a du sens politique. C'est un élu local. Mmh. C'est quelqu'un qui s'est impliqué. Et il n'est pas interdit de voir, surtout quand vous êtes au fond de la salle, ce qui était mon cas, les jeux de rôle, ce qui est en train de se passer. Et je voyais bien qu'effectivement, et on savait qu'il avait la confiance sans doute du président. Et qu'il
Mais parce qu'il a joué un rôle effectif lors du grand débat.
Exactement. Et puis lors de la création des comités de soutien aussi, c'est lui qui avait permis le développement des comités de soutien. Mais il n'est pas interdit de voir derrière une stratégie collective, son intérêt individuel. Il n'est pas interdit même d'en avoir un. C'est le propre. Je ne crois pas que dans le monde associatif, dans le monde de l'entreprise libérale, ce soit forcément différent, cette stratégie-là, de stratégie collective et individuelle. Mais je le commente, et effectivement, j'ai tout de suite vu que Sébastien Lecornu était dans cette stratégie-là, au demeurant, ce qu'il a fait avec nous au pôle élu, enfin, moi, j'ai rien à redire à ça, j'ai pas de critique à ça, mais je dis juste qu'on n'est pas dupe de cela.
Alors, on disait tout à l'heure que vous n'êtes pas non plus dupe de ce qui peut se passer ailleurs ou à côté pendant cette campagne par rapport à l'équipe installée rue du Rocher. Et je vous cite encore, page 76, « Bien que très impliqué dans l'équipe de la rue du Rocher, j'ai l'impression que nous faisons du vélo d'appartement en croyant aider notre candidat qui, lui, doit faire le Tour de France. » Alors j'ai reconnu, peut-être un peu, mais je me suis trompé, la patte stylistique d'Hervé Mathurin, dont je rappelle que dans sa carrière, il a été un des meilleurs chroniqueurs du Tour de France pendant des années en tant que journaliste. Mais quand même, ça doit être assez frustrant de se dire que là, on est cantonné à faire du vélo d'appartement quand alors, les autres grimpent le Tourmalet.
Ça me permet de dire qu'avec Hervé, on a une complicité.
C'est le deuxième livre. Oui, parce que vous avez fait un livre avec lui, déjà.
Voilà. On a cette complicité qui fait que si on sait de qui est quoi, on ne le dit pas. Je sais précisément de qui elle est. Mais en tout cas, la formule est assez imagée. Parce qu'elle dit bien les choses. Nous étions parfois réellement à faire, de mon point de vue, des choses qui étaient insuffisamment utiles ou insuffisamment réfléchies par rapport à l'enjeu de l'élection. Et donc, effectivement, quel que soit l'effort que nous puissions fournir, on était sur le vélo d'appartement parfois. Mais en même temps, là encore, quand la guerre se déclenche en Ukraine, celui qui était chargé de commander des ballons pour le prochain meeting ou de faire venir l'orchestre, non, c'est fini, il n'y a plus de ballons, il n'y a plus d'orchestre. Donc il y a aussi, c'est très important tout au long de ce livre, je veux bien aussi dire que cette campagne fantôme, collectivement, parce que Dieu sait que bien Nombreux sont nos adversaires qui n'ont pas non plus facilité le débat. Cette campagne fantôme est aussi le fruit d'un contexte extérieur qui fait qu'on a beaucoup parlé de choses fondamentales en démocratie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de campagne, parce que quand on a parlé de démocratie, justement, de régime démocratique, de guerre, de protection de nos libertés, de santé, de sauvegarde de notre tissu économique après la crise Covid, on a parlé de sujets fondamentaux, mais toute une série de sujets domestiques latents qui allaient néanmoins devoir être traités n'ont pas été suffisamment abordés. Et ça, c'est d'abord le fruit, je pense, du contexte international, peut-être aussi d'une stratégie d'évitement, mais d'abord du contexte international. Et donc, effectivement, parfois, il y avait un décalage complet entre ce que doit faire une équipe de campagne et ce qu'elle pouvait faire.
Il y a un autre débat, mais ça nous emmène trop loin, puis on sortirait peut-être du cadre du livre, qui est un débat, d'ailleurs, qui ressort en ce moment à propos de ce qu'on appelle plus ou moins la crise démocratique, etc. La question est de savoir si un président de la République doit aussi, par rapport à la Constitution, article 20-21 de la Constitution, par rapport aux compétences du gouvernement, est-ce qu'un président de la République doit s'occuper du prix de la baguette de pain et doit s'occuper aussi des questions contingentes? C'est un autre débat. C'est aussi lié à l'évolution constitutionnelle ou de la pratique des institutions de la Ve République. Alors, il y a quelque chose, un passage qui est très, très tout à fait passionnant dans votre texte et qui renvoie à Jacques Chirac qui avait son théorème sur les hauts et les bas des sondages. Alors, je peux pas m'empêcher de rappeler le théorème de Chirac, hein. Les hauts, je les méprise, les bas, je les reprise. Donc, ça, c'était le théorème de Chirac. Alors, il y a un théorème, Fabien Robert, hein. Plus on est haut dans les sondages, et plus c'est la pagaille interne dans une campagne, oui. Car tout le monde fait comme si c'était gagné et pense à la suite. Alors, ça nous ramène à ce que vous venez d'évoquer, Fabien, c'est-à-dire le fameux flag effect, ça s'appelle l'effet drapeau en sciences politiques, c'est-à-dire en fait le corps électoral se soude derrière le chef de l'État, derrière le drapeau, hein, en quelque sorte, à l'occasion d'un péril extérieur. Donc, 8 points d'augmentation dans les sondages entre le 24 février 22 et début mars, ce qui fait que le candidat Macron tutoie les 35% pratiquement. Hein. Mais on voit quand même que la campagne prend parfois des allures de pagaille. Alors, je voudrais que vous nous racontiez l'épisode du meeting de Pau, annulé, sans vous sachiez trop d'ailleurs exactement ni quand ni comment. François Bayrou qui dit et qui vous dit sa figure passe sans dans le texte à l'occasion d'un déjeuner que vous avez ensemble dans un passage émouvant, puisqu'il vient sans doute de fleurir la tombe de Marielle de Sarnez.
J'imagine.
C'est ce que vous dites dans le livre, hein, au cimetière du Montparnasse. Bayrou dit ce sont des amateurs, alors que ça se passe dans sa ville, ça va se passer dans sa ville. Puis après, ça se termine, ça se change en une rencontre avec des lecteurs des deux quotidiens locaux.
Mais ça se termine en meeting réellement, mais voilà. Beaucoup plus tard.
Voilà, hein, mais plus tard. Le 18 mars. Comment concrètement vous voyez cette pagaille, par exemple, se constituer?
En fait, ce qui se passe, c'est assez simple. Quand on est haut dans les sondages, tout le monde pense que c'est gagné et pense à son propre sort. Et se met à penser plus à son propre sort qu'à l'obligation préalable de victoire.
Mais pardon, pour bien comprendre, à son propre sort, après.
Après, oui. Ceux qui ambitionnent de rester ou de devenir ministre, ceux qui ambitionnent de rester ou de devenir député, et puis toutes leurs écuries qui autour d'eux les aident. Donc tout ça, c'est la même équipe, c'est parfaitement aligné comme la tortue romaine, mais dès qu'on est haut dans les sondages, tout le monde commence à lever le bouclier, et ça devient le foutoir. J'exagère un peu, mais c'est en réalité comme ça que ça se passe. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que quand vous êtes... très haut dans les sondages, il y a ceux qui vous disent « vous avez gagné, c'est bon, pensons à la suite ». Et quand vous êtes très bas dans les sondages, il y a ceux qui vous disent « c'est perdu, il fallait pas faire comme ça ». Mais ce sont les mêmes, en réalité, qui jouent ce rôle-là. Moi, j'ai été frappé à 2-3 reprises de voir l'inconstance de certaines personnalités, allant jusqu'à dire pour certaines « oh là là, j'ai pris un taxi aujourd'hui, le chauffeur de taxi m'a dit qu'on allait perdre ». Quand vous êtes dans un petit comité de gens censés être... à haut niveau, j'avais dit d'ailleurs, c'est plus le Cevipof, c'est le Cevipif.
Oui, vous l'avez dit. Dans
je trouve que c'est un peu étrange. Bon, mais en tout cas, c'est la nature humaine. Moi-même, parfois, je dis pas que j'ai pas de doute. Hein, comme tout le monde, on doute et on craint. Mais c'est assez. En tout cas, j'ai préféré les moments de la campagne où nous étions parfois en descente redescende. Juste, je me rappelle très bien le premier comité directeur de campagne où on annonce une légère redescente d'Emmanuel Macron, qui donc avait tutoyé les 35 et qui redescend un petit peu dans les sondages. Et voilà, et c'est à ce moment-là que certains commencent à prendre peur et que, d'une certaine manière, la campagne s'organise mieux. Parce que on re-rentre dans le rang, le coordinateur de la campagne peut gérer plus confortablement son équipe. Et effectivement, il y a l'illustration du meeting de Pau, qui est un meeting annoncé, certifié, sur lequel on peut commencer à travailler. Puis tout d'un coup, on peut plus commencer à travailler parce qu'il est annulé. Bon.
Mais on ne vous le dit pas tout de suite.
Non, parce que je crois que personne n'ose facilement appeler François Bayrou pour lui dire « au fait, c'est plus possible ». C'est quand même... pas facile de lui expliquer ça. Néanmoins, ça aura lieu plus tard. Et je peux pas tout raconter, mais ça a été un meeting extrêmement intéressant et émouvant.
C'est pas un meeting, c'est une rencontre.
C'est une rencontre avec
des lecteurs. Hein,
voilà. Là où le premier meeting, l'organisateur laisse ses notes sur le pupitre et les journalistes les récupèrent et on se rend compte que les questions posées au président de la République, il les avait lui sous le nez. Donc on se rend compte que... Alors, c'est pas non plus choquant, là encore, surtout que les questions étaient des vraies questions. Pourquoi vous êtes parti en campagne si tard? Pourquoi? Mais il est vrai qu'il y avait une forme de théâtre. Là, à Pau, ce sont des lecteurs du Sud-Ouest et de la République des Pyrénées qui posent des questions.
Et je fais un peu accroché au début par une militante écologiste.
Et je peux vous dire que c'est un moment très fort pour moi parce que je trouve qu'on renouvelle un peu le format du meeting. Dans les meetings, tout le monde est convaincu, on ne gagne pas une voix. Là, on a des vrais gens, entre guillemets, qui vont chercher le président de la République sur les sujets qui sont les sujets les plus clivants. Et ma théorie, c'est qu'il faut aller au contact. Il ne faut pas refuser le contact dans les campagnes, ni même dans le gouvernement du pays, parce que être à portée d'engueulade, comme l'ont dit plusieurs élus, dont le président du Sénat, c'est important. Donc, le fait d'aller au contact dans ce meeting de Pau est extrêmement émouvant jusqu'à la fin où, alors que ça s'arrête, un jeune handicapé en fauteuil roulant, que j'avais moi-même amené d'ailleurs plutôt devant parce qu'il était très loin derrière, attrape le micro et s'adresse au président. Tout le monde se rassoit. Le président, je le précise, allait à ce moment-là à la préfecture de Pau, appeler Poutine.
Vous appelez ça le défi des échelles.
Et là, on voit le défi des échelles. D'un côté, il a ce jeune handicapé qui lui dit « Moi, ma situation, voilà où j'en suis. » Et c'est compréhensible. Et
vous dites que le président Macron descend de la scène.
Descend de la tribune.
Il se met à sa hauteur.
Il va le voir. Et à ce moment-là, je suis au fond de la salle, je me dis « C'est moi qui l'ai amené à cet endroit-là. Comment ça va se terminer ?» Je fais quelques gouttes quand même. Parce que... Et le débat est d'une sincérité troublante, au point que tout le monde a dû penser que c'était là encore une mise en scène. Pas du tout. Le président descend, il lui répond, il s'approche de lui. François Bayrou tente par tous les moyens de lui rappeler qu'il doit absolument aller à la préfecture pour ne pas rater même de 5 minutes le rendez-vous qu'il a au téléphone avec Vladimir Poutine.
Mais surtout que Poutine aurait peut-être eu du mal à comprendre que dans le cadre d'un échange démocratique spontané avec quelqu'un, on puisse...
Vous voulez dire que les meetings de Poutine se terminent eux à l'heure, oui.
Ben, c'est ce qu'on peut le suggérer.
On peut le suggérer. Donc ce moment-là est extrêmement émouvant et montre aussi que, voilà, je le crois profondément, il faut une part... De conflits, d'improvisés, de conflictuels, mais au sens noble du terme, dans une campagne électorale.
Alors là où il ne va pas y avoir vraiment d'improvisation et de conflictuel, ce qui vous permet de dire que les réunions publiques sont quand même dépassées, c'est le show énorme que vous comparez, mais vous n'avez pas été le seul, à la finale du Super Bowl, de la fameuse NFL, hein, le football américain. C'est le meeting... alors je faut que je retrouve la date, c'était un samedi, ce samedi 2 avril. À la Défense Arena,
grande salle de spectacle.
Voilà, 30 000 personnes. Vous dites les feux d'artifice à la fin, c'était peut-être un peu too much. Alors là, c'est une situation un peu particulière parce que on va pas rentrer dans le détail du livre, les lecteurs le verront. Vous êtes souffrant, enfin, vous avez des problèmes de santé. Vous voulez quand même à tout prix être là et vous êtes affecté à une mission dont on comprend d'ailleurs qu'elle est de la plus haute importance politique. C'est l'accueil des VIP et c'est pas rien parce qu'on c'est pas une question de protocole, c'est un peu une question aussi du physionomiste à l'entrée du casino. C'est qu'il faut pas se tromper.
Il y a des gens qui sont persuadés que tout le monde les reconnaît,
mais c'est cela. Voilà, et il y en a d'autres qui ressemblent à rien, donc c'est encore plus compliqué parfois de les reconnaître. Et donc vous les placez, etc. Et il y en a des députés. de la majorité parlementaire, enfin présidentielle, qui ne sont pas contents parce qu'ils trouvent qu'ils sont mal assis. Vous êtes obligé de leur dire, ben, oui, regardez dans les gradins, il y en a qui sont là. Qui
ont on fait 8 heures de route et...
Voilà, bon, ils ne respectent pas. Donc, il faut gérer tout ça, gérer ces espèces d'égo. Mais en même temps, vous êtes quand même bluffé par la performance de l'acteur.
Oui, bon, d'abord, moi, je trouve cette tâche absolument pas ingrate. Ça fait partie... Moi, j'ai commencé à 16 ans en collant des affiches. Je colle encore des affiches aujourd'hui dans mes campagnes pour les autres ou pour moi. Donc, ça ne me gêne pas du tout. Puis, c'est plutôt marrant parce que, pour le coup, faisant, en même temps que j'accueillais les gens et en même temps que je travaillais dans l'équipe, l'exercice intellectuel de préparer le journal, je trouvais beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses et de recul.
Des choses.
Voilà. Et donc, effectivement, je trouve d'abord la puissance du meeting, c'est le nombre. C'est le plus gros de la campagne, c'est peut-être l'un des plus gros qui ait jamais été organisé au-delà même de la France, peut-être en Europe. Donc
il y a une mise en scène assez incroyable avec une scène,
oui, une scène centrale, circulaire.
Avec des pupitres qui lui permettent de se déplacer.
Il a trois pupitres qui font qu'il tourne en permanence et qu'il est capable de s'exprimer près de à 360. Ça paraît technique, mais pour certains, déjà, parler face à un public, c'est une épreuve. Parler à 360, c'est extrêmement difficile, 360 degrés. Donc la performance, ce qu'il dit... sans mentir, hein, sans aucune flagornerie, il tient la salle de 30 000 au bout de ses lèvres à plusieurs reprises dans des moments extrêmement émouvants. Donc il est extrêmement bon dans l'exercice, d'où l'importance de faire des exercices aux candidats qui leur sont adaptés. On revient un peu à l'erreur faite avec Valérie Pécresse.
Oui, tout à fait, oui.
Mais par contre, il est vrai, mais c'est aussi les différences de culture politique, que le côté chaud, le côté du pain et des jeux... spectacle à l'américaine, du pain et des jeux, hein, c'est aussi vieux que la politique, me dérange toujours un petit peu. Et puis la nature humaine, ceux qui veulent être mieux assis, ceux au contraire qui vont s'asseoir dans un coin, leur dire non, votre place n'est pas là et on les amène ailleurs. Et c'est vrai que pour ça, il faut connaître un petit peu les gens, il faut pouvoir s'adresser à eux. Et puis ça permet de nouer des relations, ça je le raconte pas dans le livre, mais tout d'un coup, pendant le discours, je vois Christian Estrosi se lever d'un seul coup, partir dans une direction absolument inappropriée, je sais pas du tout où il allait, j'étais debout derrière, je me faufile, je tape sur son épaule, et il comprend qu'il avait besoin d'aller aux commodités, qui n'était pas du tout par là, donc je lui dis, je vous amène de l'autre côté, et en sortant, il me dit merci, ben, je lui dis oui, si je m'étais présenté à vous, vous ne seriez pas rappelé de moi, mais je suis sûr qu'avec cette anecdote, la prochaine fois que je vous croiserai, vous vous rappellerez de moi, je vous dirai, je vous ai amené à ce moment-là. Donc ça fait, si vous voulez, on arrive à rencontrer des gens dans des conditions incroyables. Je me rappelle également du sénateur de Vichy également, qui allait absolument se tromper de tribune dans l'endroit où il allait, et voilà, donc tout ça, c'est des tâches qu'il faut savoir faire aussi.
Il y a même Édouard Philippe, à un moment, vous le croisez, il vous voyez dans ses yeux que il cherche à vous identifier, vous lui dites Bordeaux, Juppé,
et voilà.
Et ça, à ce moment-là, ça lui
recrute. Je crois que ça percute parce que vous savez, on est tous face à des gens des fois qu'on croit connaître et qu'on connaît pas.
On va continuer. Je reste sur cette campagne parce que page 127, vous évoquez une dépêche de l'agence France-Presse le 24 mars, un mois avant le second tour exactement. Et cette dépêche dit que la campagne d'Emmanuel Macron est sans magie. Alors, encore une fois, c'est avant le 2 avril, hein. Et vous confirmez, vous-même d'ailleurs, mais vous écrivez dans votre journal, à la date encore une fois du 24 mars, hein, cela ne vaut pas que pour la nôtre, hein, cette absence de magie, mais c'est une réalité. Personne ne fait rêver, on piétine des sables mouvants.
Bien sûr.
Emmanuel Macron fait dans le réel, dites-vous, mais pas dans le rêve.
Totalement. Je pense que magie n'est pas le bon mot. La magie, ça renvoie à ce que précisément les hommes et les femmes politiques n'ont pas, c'est-à-dire la baguette magique. En revanche, il faut incarner un idéal. On a quand même plus souvent fait des additions et des soustractions qu'incarné des idéaux dans cette campagne. Le seul qui, à un moment donné, a réussi, c'est Jean-Luc Mélenchon, et c'est la progression qu'il a faite dans les derniers jours de campagne.
Il est plutôt coutumier de ce genre d'opération, si je puis dire, puisque ça fait au moins deux campagnes électorales que, dans la dernière ligne droite, je puis dire avant le premier tour, il finit fort.
Ceci étant totalement fondé, de mon point de vue politique cette fois, sur des choses irréelles. Donc c'est facile de faire rêver et de
pas tant que ça.
En tout cas, quand il s'agit de malgré tout faire les comptes du pays, j'ai considéré que son programme était irréel. Donc il fait peut-être envie. En tout cas, on n'est pas obligé de promettre des milliards d'euros pour porter un idéal. Moi, je considère que son programme était financièrement intenable, mais je considère que de notre côté, nous n'avons pas suffisamment su incarner un idéal. Et malgré tout, même si les gens pris un à un nous parlent de leur situation personnelle, moi je crois qu'une élection dans son ensemble, c'est un climat, c'est un contexte, et se dégage quelque chose à ce moment-là qui est plus collectif et qui relève de l'idéal. Mais cette campagne n'a pas été une campagne qui a permis cela. Aussi, voilà, nous avons notre responsabilité, hein, mais nos adversaires portent aussi la leur. Je pense que l'appauvrissement du débat public qui est réel ces dernières années, s'est accéléré depuis cette élection. Et aujourd'hui, il suffit de voir les débats à l'Assemblée nationale pour comprendre. Moi, je trouve qu'on a aujourd'hui, la qualité du débat public n'a jamais été aussi faible.
Alors, on voit bien aussi en vous lisant, comme on dit, les structures, comme dit Frédéric Begli, et vous connaissez, puisque vous avez fait des études de sciences politiques, sont emboîtées. Hein, et qu'en particulier, avec les présidentielles, dans le paquet, il y a les législatives. Et donc, il y a un processus d'interaction qui est assez régulier, y compris qui vous concerne, vous, hein, qui vous interpelle, hein, y compris d'ailleurs sur la question, est-ce que je dois me présenter ou pas, ou vous dites que c'est quelque chose de très intime, une candidature. Hein, vous avez plusieurs propositions. Finalement, vous allez choisir la troisième, enfin, vous allez arriver, sur, pas la troisième proposition, mais la troisième circonscription. Hein, le dimanche du deuxième tour présidentiel, François Bayrou évoque avec vous, c'est page 197, la possibilité de vous présenter sur la première circonscription, mais comme suppléant de Thomas Cazenave. Il faut dire que cette circonscription est tenue par une dame qui s'appelle Anne David, hein, députée en marche sortante, puisqu'elle a été élue en 2017, dont on sait qu'elle ne se représente pas. Hein, elle a dit que... Et donc, quelque part, cette circonscription, dans le processus de négociation interne à la majorité, elle est plutôt réservée à La République En Marche, donc difficile pour vous de vous présenter comme députée en titre, mais vous refusez d'être le suppléant de Thomas Cazenave, alors que Bayrou dit que ça pourrait être une bonne idée, et que ça vous aurait peut-être permis d'avoir un pied dans la porte,
par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Il évoque l'idée.
Un pied dans la porte du Bousca pour 2026, pour les municipales, c'était sur la circonscription.
Ça fait beaucoup de billard. Je joue billard, j'aime ça, mais je pense que de temps en temps, il faut éviter le billard à trois bandes. Sur le papier, c'est une proposition qui peut être réfléchie. D'abord, je ne connais absolument pas l'avis de celui qui, à l'époque, pouvait être investi, puisque je pense qu'il... je ne sais pas s'il sait l'anecdote, je n'en sais rien. En tout cas, c'était peut-être dans l'hypothèse qui circulait à l'époque qu'il soit ministre. Bon, aujourd'hui, on connaît l'histoire. Et dans tous les cas... m'a pris un quart de seconde.
On peut ne pas avoir été ministre et on peut le devenir.
Totalement. Bon, alors ça, c'est tout à fait possible. Mais voyez-vous, je crois qu'en politique, pour être fort, il faut être libre.
C'est ce que vous dites dans le livre.
C'est absolument ce qui m'a conduit à dire...
Et vous dites aussi, il n'est pas question qu'il y ait un problème de hiérarchie entre Thomas Cazenave et moi.
Bah, évidemment, ni d'hiérarchie, ni de subordination, ce qui est plutôt le cas quand même d'un suppléant. Et c'est la raison pour laquelle je vais mener mon propre combat dans une circonscription dont je sais le résultat à l'avance, la troisième circonscription que vous connaissez bien et qui malheureusement est un territoire dans lequel, même en 2017, de quelques voix...
Il a manqué
181
voix à Marie Fétou.
Hein. Exactement. Donc je savais parfaitement à quel sort je m'exposais. Mais je trouvais aussi que mener le combat face à un député insoumis sortant dans ce territoire populaire était pour moi plus utile au président de la République et à la majorité. Je savais que j'allais le perdre. Je ne suis pas là dans un discours sacrificiel. Mais je savais très bien que ça allait être une campagne avec des gens formidables. J'ai eu une équipe extraordinaire, y compris pendant la présidentielle sur cette circonscription. Les gens étaient extrêmement engagés.
Vous le dites.
Des gens vraiment formidables, nombreux, tous unis. On n'a eu aucun problème de dissidence dans cette élection.
Puis vous avez le soutien du maire de Talence, Emmanuel Salaberry, que vous consultez pour savoir s'il a envie d'y aller. Du maire, encore à l'époque, Pujol de Villeneuve-d'Ornon, qui est une forte personnalité, mais qui vous soutient.
Vous n'avez jamais soutenu personne aux élections nationales. Donc je crois que j'ai eu... on a fait des rangs de soutien, un rang extrêmement large. Cette campagne a été utile parce que même perdue, toutes les campagnes sont utiles dans les réseaux et dans tout ce que l'on peut tisser. Et c'est la raison pour laquelle, après quelques secondes même de réflexion, j'ai fait savoir que ça ne m'intéressait pas forcément. Et puis peut-être que ça n'aurait pas non plus intéressé le principal intéressé, néanmoins député Thomas. Donc tout ça, c'est le propre du journal. On écrit des choses à une époque, on les pense, on les dit.
Mais je rappelle quand même, c'est à mettre dans le dossier, que sur cette circonscription, au soir du premier tour, Emmanuel Macron a 3800 voix de retard sur Jean-Luc Mélenchon.
Hein. Et il y a 7000 voix de réserve encore à gauche.
8000, vous dites.
8000 de réserve à gauche, ce qui vous donne une idée du résultat.
Alors, Là où on voit que c'est un journal qui est effectivement un journal politique, mais qui, par certains côtés, peut avoir une dimension de journal personnel, voire intime, vous cachez pas votre émotion. Le 26 mars, vous vous retrouvez dans la salle, alors je crois que c'est l'Ermitage, au Bousca, enfin, je crois que vous dites pas le nom de la salle, mais nous la connaissons, parce que c'est la première fois que vous y revenez depuis la disparition de celui que vous appelez votre grand frère en politique, Johann Tarisme. Il se trouve que la vie fait que nous l'avons bien connu tous les deux. Est-ce que l'amitié fraternelle a encore sa place dans la vie politique, selon vous?
C'est assez difficile de dire si l'amitié en politique se porte mieux que l'amitié dans notre société. Je pense que l'amitié est plus dure en politique.
L'amitié plus dure au sens de plus difficile.
Plus difficile. Les amitiés sont plus difficiles en politique parce que le malheur de vos amis est parfois votre propre bonheur. En c'est ainsi. Je reste convaincu que l'amitié dans la société aujourd'hui, en général, est quelque chose de plus difficile. La solitude est sans doute le mal le plus dur, celui qui ronge le plus la société dans laquelle nous vivons. Et donc, nécessairement, il est plus difficile en politique. Et je ne crois pas que, hélas, il soit plus facile. Ça me rappelle à la fois cette citation bien connue et ce livre, parce que c'était lui, parce que c'était moi.
Entre Montaigne et la Boétie.
Entre Montaigne et la Boétie. Le livre du même nom traite de l'amitié en politique. Elles sont rares. Marielle de Sarnez, François Bayrou.
C'est un livre de Marie-Laure Delorme, je crois.
Traite de ces rares amitiés. Je pense à Gilles Boyer, Édouard Philippe. Toutes ces amitiés-là sont parfois nées en politique, mais sont fondées sur autre chose. Et effectivement, revenant au Bousca dans cette salle, c'était pour moi extrêmement, extrêmement émouvant. Et ça ne me fait pas perdre de vue non plus qu'une grande partie de ce que j'ai appris et de ce que je sais, je l'ai appris avec Johann Tarisse, qui aurait été un grand maire du Bousca et un grand député de la première circonscription, je crois.
Oui, puisqu'il était président départemental du MoDem. Voilà. On va terminer, mais je voudrais que vous repreniez ou réagissiez à ce que vous écrivez vous-même. C'est plutôt à la fin du livre, page 150, enfin, dans le dernier tiers, vous dites ce qui me frappe, c'est qu'il est moins difficile désormais de dire que l'on va voter pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron. Et avec une chute en forme de constat que moi je qualifierais d'attristé, la honte a changé de camp. Est-ce que cette campagne fantôme n'a pas contribué d'une certaine façon à accentuer cette tendance?
Il est clair que s'il n'y a pas eu de campagne, Marine Le Pen y est pour beaucoup. Ouais. Parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup tenté de s'échapper, notamment au milieu des 12 candidats.
Oui.
Plus dur entre les deux tours. Et dès que c'est plus dur, d'ailleurs, hop, on voit les difficultés réapparaître. Ouais. Donc elle a largement contribué.
Ça ressemble un peu à la stratégie actuelle au Parlement.
Exactement. C'est pour ça que je dis que dans ce journal, on voit les prémices de ce que l'on vit aujourd'hui. Alors évidemment, comme je n'ai pas changé une ligne, parfois j'ai beaucoup de frustration quand je relis certains passages, je dis j'aimerais ajouter le commentaire qui fait le lien avec aujourd'hui, mais je pense que les gens le verront, je l'espère, les gens le liront.
Ben c'est l'occasion de le faire.
Exactement, c'est l'occasion de faire soi-même le lien entre ce qu'il y a dans ce livre, mais on le voit bien, l'appauvrissement du débat, la dédiabolisation de Marine Le Pen, la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon, à l'inverse, on voit que tous ces éléments-là sont aujourd'hui présent dans la vie politique française, avec notamment ce qui se passe à l'Assemblée nationale. En tout cas, je suis absolument sûr et certain que l'avenir pour un président de la République, c'est d'accepter le débat, la confrontation, pendant les campagnes, mais en dehors des campagnes également. Je ne crois pas du tout à la théorie de la parole rare du président de la République, que Jacques Chirac avait théorisé. Enfin, on n'y croit pas beaucoup chez nous.
Jacques Pilan qui l'avait théorisé pour Jacques Chirac.
En l'occurrence, cette manière de faire un peu des rois fainéants, pour moi, n'a pas de sens dans la société d'aujourd'hui. Il faut être totalement mobilisé, savoir fixer un cap, mais être totalement mobilisé, y compris au contact des gens avec qui on a un désaccord. Sinon, il n'y a plus de principe démocratique même. On se met en désaccord, l'élection règle ce désaccord, mais il a été préalablement exprimé, préalablement vécu. Et pour revenir à Marine Le Pen, voilà, moi je le dis à un moment donné, je refuse d'utiliser les éléments de langage un peu là du Front républicain qu'on nous transmet parce que ça ne marche pas. Le Front républicain, il faut sortir de cela, il faut concrètement être capable de démontrer pourquoi, et c'est ce qu'on a fait évidemment entre les deux tours avec là une vraie campagne. Hein, ça s'est accéléré entre très fortement.
Vous dites que la campagne devient tonique,
très tonique.
Il y a 15 jours, vous sentez un vrai changement.
Et de ce point de vue là, c'est une vraie réussite stratégique parce que une campagne, c'est à la fois une course de fond et un sprint final. Zemmour, il a fait le sprint et il est arrivé. Il n'est pas arrivé sur la ligne tellement il était fatigué, même physiquement. Donc notre candidat, le président de la République, a mené le sprint au bon rythme dans les derniers moments. Et j'ai beaucoup insisté et trouvé extrêmement intéressant qu'il aille au contact, y compris dans les territoires où le RN avait fait, Marine Le Pen avait fait des scores importants au premier tour. Il a été au contact, il a discuté. On l'a vu sur les places de village, on l'a vu sur les places publiques. Et à l'heure où on le voit entouré de bruit de casseroles, je dis continuons. Parce que c'est à cet endroit-là que se fait la politique.
Je note, page 185, cette réflexion, toujours de vous. En politique, on peut faire des erreurs, on peut perdre, mais il existe une faute mortelle, c'est le reniement. Bon, Fabien Robert, je veux dire que si cette belle phrase est impeccable au niveau des principes, si elle était vérifiée dans les faits, il y aurait déjà la moitié de la classe politique française qui serait peut-être morte. Hein.
Ça dépend de quoi on parle, et justement, de quelle carrière on parle.
Oui, ou ma question c'est qu'est-ce que c'est que le reniement si,
En tout cas, ce que je constate, c'est que il y a... les Français sont sensibles à la constance des femmes et des hommes politiques. Contrairement à une idée reçue, on se dit souvent en politique, il n'y a pas de mémoire, les gens ne se rappellent pas de ce que vous avez dit la veille. C'est vrai, mais vous forgez une image de vous qui n'est pas précisément ce que vous avez dit, mais qui est construite par tout ça, dont les Français collectivement arrivent à distinguer les contours. Voilà, ça j'y crois profondément. François Bayrou a une image dans la société qu'il a ciselée depuis des décennies, pas simplement par ce qu'il a fait, mais et aujourd'hui, je pense qu'on lui reconnaît une forme de constance, après peut-être ne pas lui avoir accordé cette qualité, on lui reconnaît aujourd'hui une forme de constance aux côtés d'Emmanuel Macron. Je le dis, cette phrase, je l'écris à propos du Parti Socialiste. J'en parle vraiment d'expérience. Nous avons pendant 10 années, nous, les centristes, le MoDem, traversé le désert pour s'être refusé.
Trois députés dans un de Mayotte. Hein.
Trois députés, on était monté à 4 et on était redescendu à 3.
Et Jean Lassalle.
Avec Jean Lassalle, un député de La Réunion et François Bayrou. Et puis après, zéro. Même François Bayrou est battu. Alors qu'il avait pourtant pas appelé à voter pour l'adversaire de François Hollande. Bref, en tout cas, on est dans une situation difficile. Et si aujourd'hui, je crois, nous avons tout simplement voilà, un groupe à l'Assemblée et un rôle dans la vie politique actuelle, c'est parce qu'on a su rester sur nos idées, pensant qu'un jour, peut-être, elles seraient de nouveau majoritaires. Et le Parti Socialiste, en s'alliant à la NUPES, s'est renié. Et alors, tout le monde à l'intérieur n'est pas à mettre dans le même sac. J'étais, il y a quelques semaines de ça, écouter Bernard Cazeneuve. D'ailleurs, je ne le dis pas parce que c'est pendant ma campagne législative, mais je l'avais appelé pour être le président de mon comité de soutien pendant la campagne législative. Cet homme m'avait dit, écoutez, je ne vous connais pas, je n'ai pas de raison de ne pas avoir de sympathie pour vous, mais je ne vais pas le faire, parce que si je le fais, je vais soutenir un candidat du camp Macron, alors que je veux reconstruire une force de gauche différente. Donc c'est quelqu'un qui a énormément de constance et qui défend, je crois, une autre vision du socialisme. Je l'ai écouté il y a quelques semaines de cela à Libourne. J'ai trouvé que c'était quelqu'un d'extrêmement constant. Mais le Parti Socialiste, aujourd'hui, s'est renié, et je pense qu'il va le payer pendant très longtemps. Voilà, c'est ça le sens de ce que je veux dire.
Dernière question, parce que le temps passe, on pourra en discuter longtemps sur ce livre témoignage. Donc vous êtes au Champ de Mars, c'est au soir du deuxième tour. Vous trouvez que l'ambiance est très étrange pour un sort de victoire. Et vous dites comme si les nuages qui s'accumulent à l'horizon n'étaient en train de transformer la victoire historique de Macron en victoire perdue, entre guillemets. Donc vous pressentez que les législatives de 2022 n'auront rien à voir avec celles de 2017. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce soir-là, 23 jours pour avoir une nouvelle première ministre. Alors ça nous ramène peut-être à un autre texte, mais comment vous expliquez ce départ raté, on va dire?
Je ne sais pas si c'est un départ raté, mais ce que je sens, c'est que j'ai précisément senti, c'est personnel là encore, le moment où de la joie, qui n'était pas excessive non plus, On bascule dans le jour d'après, la minute d'après, comment on va maintenant régler les problèmes d'un pays divisé, sensible aux théories complotistes, d'adversaires qui ont décidé qu'ils allaient continuer l'élection même après l'avoir perdue. Tout ça met quand même dans un contexte très difficile. Je pensais, mais déjà quelques semaines avant, que les élections législatives allaient pas bien se passer. Pour ma part, si c'était la troisième, je savais qu'elle se passerait mal dans tous les cas. Mais je disais que collectivement, je voyais bien, quand on regarde les scores du premier tour d'Emmanuel Macron dans certaines circonscriptions, je ne voyais pas comment un député de la majorité présidentielle allait pouvoir être élu.
Alors qu'il fait 4 points de plus au premier tour de 2022 par rapport au premier tour de 2017.
Vu par circonscription, malheureusement, dans certaines circonscriptions...
Et puis surtout que si la gauche est unie, alors là,
voilà. Ça devient... Alors au départ, pas du tout, et on compte là-dessus, mais dès qu'une gauche... Donc c'est un moment précis... où je me dis, oui, ne transformons pas tout ce que l'on vient de faire en victoire perdue. Il faut immédiatement remonter sur le cheval. C'est les législatives. On n'est pas totalement immédiatement remonté sur le cheval. Il a fallu un peu de temps. Peut-être se disait-on qu'on allait enjamber cette élection, qu'on aurait de toute façon une majorité. Hélas,
ça allait être une nouvelle campagne fantôme.
C'était une campagne, en tout cas, pas pour les candidats qui l'ont faite, je le crois, sur le terrain. Mais une législative n'est pas une campagne locale. Vous êtes dans le cordon d'une campagne nationale. Quand
surtout avec ce système d'élection législative juste après la présidence.
Exactement. Une bonne déclaration du président de la Première ministre et vous montez dans votre résultat ou vous baissez. En tout cas, ça confirme que dorénavant, en politique, gagner n'est pas tout à fait encore gouverné. Il faut convaincre, y compris après avoir gagné.
Ben, votre livre a au moins le mérite de la conviction. Voilà. Merci Fabien.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.